Il a gardé sa chemise à carreaux de la fête de la bière de Rostock. David Lortolari est avec nous. David, bonsoir.
Allô, Freunde, salut à tous. Le rouge et le blanc sont à l'honneur ce soir, Gilbert, en Allemagne.
Oui, tout à fait. En revanche, il y a un problème avec tes boutons, là.
C'est fait exprès.
Ah, c'est fait exprès.
Tu as un système pour faire des manches courtes. Tu peux faire des manches longues et
ce sont des boutons de bois.
Ouais. Des boutons en bois.
Ouais, je comprends.
Très bien, c'est original.
Ouais. Imitation bois.
Ah, c'est imitation bois.
Ouais. C'est bouton en bois, je ne savais même pas que ça existait.
Non, c'est du plastique, pardon.
De l'ivoire, sinon.
Oh non, non, pas l'ivoire, non, non. Pas de trafic d'ivoire, non, non, quand même. Non, non.
Julien Laurent, c'est parmi nous également depuis Londres. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Ah, l'homme qui sera dans les premiers draftés, pour moi.
Pour le match de l'after ? Ah, tu vas drafter.
Et tu as des infos, tu l'as déjà vu jouer au foot, Julien ?
Évidemment que j'ai des infos. Si je suis entraîneur, c'est que j'ai des infos sur les meilleurs éléments.
Je sais pas, moi, l'équipe que t'as appelée.
Mais de toute façon, Pierre, tu t'en fous. C'est pas toi qui fais les choix, toi, t'es drafté. Alors, laisse-moi avec tes infos.
Non, je veux pas tirer dans n'importe quelle équipe quand même, quoi.
Mais tu vois, déjà, l'année dernière, t'as contesté mes décisions et là, tu viens te mêler du recrutement.
Attention,
tu es joueur, reste à ta place.
Jérôme a réussi à ramener 4 genoux de 20 ans, là, qui cavalaient comme des lapins. T'avais pas su les ramener. On pouvait pas exister.
C'est la surenchère.
Tu sais bien que le mercato fait toute la saison. Là, c'est pareil.
Il a enfreint la règle.
Il a été plus malin.
Et sachant qu'il n'y a pas eu de fédération, de FIFA, d'UEFA, je ne sais quoi, pour faire respecter la règle, il a fait ce qu'il a voulu avec ses
stagiaires du
Bayern. Tu feras respecter la règle.
L'erreur originelle de Daniel, lors du choix des joueurs, j'avais le mieux. Daniel a quand même fait jouer Bernard Mendy en attaque. Ouais. À partir de là.
Ah oui, c'est après, je l'ai fait reculer parce que j'ai vite trompé la supercherie.
Attends, c'est vrai, exact. Exact, c'est vrai, je m'en rappelle.
Bon, mais je précise que Jérôme Bretel est aussi sur le coup de l'ignorance, pour la draft.
Hein. Ah, mais non, mais Daniel, on
va faire plaisir. Il va y avoir concurrence avec Jérôme pour la draft de Julien, attention.
Ben, il n'y a pas de concurrence possible. Julien, il sait où il doit aller, c'est réglé.
C'est l'ordre de draft, mon vieux.
Ah, bah,
c'est du plaisir.
À lui de savoir s'il préfère le consultant ou le journaliste.
C'est toi ou Jérôme.
Qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Une carte de presse, un passé.
T'as pas compris le principe de la draft.
Une dignité.
Le joueur n'a rien à dire à la draft.
Ouais. Non, mais je sais. Mais lui, il aura à dire. Il y a des mecs, à un moment, il va falloir quand même qu'ils se positionnent.
Alors, Fred Hermel, lui, ne sera pas là au match de l'after. Parce qu'il a un match de l'Espagne. Alors, le match, ce jour-là, le match important, ce sera le match de l'after, bien sûr, qui sera
oui, bien sûr.
Sur un match de l'after. Oui, enfin,
en l'occurrence, Fred Hermel, pour le match de l'after, nous manquera au dîner. Sur le terrain, pas trop.
Je dois reconnaître que je suis
d'accord.
Non, mais on va dire la vérité.
Appelons un chat au bord du terrain pour discuter si t'as rien à faire avec lui et tout, ça va très bien se passer. Moi, j'aurais à faire parce que j'ai une équipe à diriger, donc je pourrais même pas parler avec lui.
Il voit le football, Fred. Il connaît le foot.
Il a l'habitude de voir des stars, mais Fred, le choc va être terrible pour lui, il pourra pas.
C'est-à-dire que un homme blanc de bientôt 50 ans, j'ai toujours été nul au foot, mais vraiment nul. Vous vous souvenez qu'à l'école, qu'on faisait chou-fleur pour jouer dans les équipes? Et ben, le dernier qu'on choisissait, c'était moi.
C'était la draft de l'époque.
Ben voilà. Et à l'époque, Hermel, on l'a déjà eu. Donc voilà. Moi, c'est ça. Et puis ce soir-là, j'ai Espagne-Suède à Bernabeu. Mais je serai avec
alors
vous.
C'est moi déjà qui faisais les équipes.
T'en as pas marre de Bernabeu, là. Tu veux pas venir au
stade? Non, mais Espagne-Suède, ça me dit bien quand même. Espagne-Suède, ce sera mon dernier match en direct de l'année.
Bah oui, t'as raison, Fred.
Donc tu peux comprendre.
En direct, c'est pas le match de l'after en direct.
C'est non, mais quand je dis en direct, c'est un salisme.
Comment il va le faire en direct, Fred, tu le fais sur quelle chaîne?
Des points avec lui.
Non, mais des points. Mais je serai avec vous. C'est-à-dire qu'il y aura des commentaires de l'after et il y aura des petits points sur ce petit match.
Tu vas pas avoir le nombre d'actions qu'il va y avoir au match de l'after. T'auras pas beaucoup de place, Fred. Je te le dis.
Non, je sais. Mais je ferai des points, comme on dit. Si ça va être pas.
En tout cas, tous les soirs, on va vous dévoiler quelques infos sur le match de l'after. Je peux vous dire qu'il va y avoir des surprises. Comment dirais-je, assez incroyable.
Ah, c'est beau, ça. Ça fait deux soirs que tu nous dis ça.
Je pèse mes mots.
Déjà,
on peut en avoir une, là, ce soir.
Il a annoncé nos présences de
sur un défi.
C'est pas une surprise, on le savait.
Mais
ça.
On n'était pas là.
Et sur un défi dans les équipes.
Surprise, Gilbert.
Il y aura des filles, exactement, Fred.
Ah, tu vois? On doutait, quoi.
Sur le terrain, tu veux dire.
Après, lesquelles?
Sur le terrain. Exactement.
Oui, David, oui. Ah, l'autre.
Oui, c'est un match de foot.
Des meufs sur le terrain. Non, c'est lui, il pense déjà à l'après.
Sinon, Julien,
parce que c'était il y a longtemps, mais je veux dire, t'es toujours en forme. Je veux dire, tu t'es pas embourgeoisé.
Toujours, pas du tout.
Ça va, t'es toujours en forme. Je veux dire.
Non, alors moi j'ai eu des infos.
Rangé, tu fais pas 10 kilos.
Il paraît que quelles infos? Bah, depuis que monsieur, il a 4 équipes anglaises en finale de coupe européenne, il a pris le melon, tout ça. Il s'est embourgeoisé.
Non, je reste toujours le même. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir quand même
Un club en finale de Coupe d'Europe. Mais alors, ton problème, c'est que t'es arrivé très haut tout de suite.
Parlons-en.
L'important, c'est la durée.
Parlons-en, parce qu'évidemment, après-demain, finale de l'Europa League. Et donc, samedi, finale de la Ligue des Champions. Deux matchs à vivre sur RMC, bien sûr, l'intégralité. On a les droits, on va pas se priver. Les dernières infos concernant Arsenal-Chelsea. Julien, là, à 48 heures du match.
Alors, ce qui était intéressant, surtout ces derniers jours, c'est que Arsenal a choisi d'aller à Bakou très tôt. Dès samedi, les joueurs et le staff sont arrivés dans la capitale de l'Azerbaïdjan. Alors que Chelsea, par exemple, n'est parti qu'aujourd'hui. Est-ce que ces deux jours de plus pour Arsenal pourraient faire la différence? En tout cas, Unai Emery n'a pas voulu transiger. Il a voulu absolument partir samedi, pas dimanche, pas lundi, pas la veille du match non plus. Il y a un petit décalage horaire à digérer pour les joueurs. Il voulait aussi arriver tôt pour pouvoir s'entraîner et préparer cette rencontre au calme. Avec un groupe de joueurs et un staff autour assez restreint. C'est assez original, hein. C'est très rare de partir aussi tôt avant une finale, mais pourquoi pas, deux jours avant Chelsea par exemple, qui eux sont partis aujourd'hui. Au niveau des absences, on l'a déjà dit souvent dans l'émission, pas de Henrikh Mkhitaryan pour Arsenal, ce qui est assez triste déjà pour lui de rater une finale pour des raisons politiques,
c'est terrible.
Non mais attendez, parce que là
pour l'UEFA,
explique pourquoi aussi peut-être, parce que c'est...
Non mais on a déjà expliqué pourquoi, Fred, mais le problème
Non mais les auditeurs sont pas forcément tous au courant.
Oui, à raison diplomatique, mais moi je pense que au final c'est une décision du club. Il aurait pu y aller.
C'est la décision de Mkhitaryan. C'est la décision de Mkhitaryan déjà en premier lieu, et le club a soutenu le joueur la décision du joueur, c'est-à-dire s'il avait voulu y aller, s'il avait senti avec le soutien du club et de l'UEFA, ce qui faut quand même souligner.
Parce que l'Azerbaïdjan était prêt à l'accueillir.
Oui, ils ont passé le message qu'il serait reçu en toute sécurité et qu'il y aurait pas de problème.
Voilà, mais lui a senti visiblement que tout n'avait pas été fait au niveau de la sécurité pour sa sécurité à lui. Il faut savoir que c'est quand même un pays qui ne laisse entrer aucun arménien, donc aucune personne de nationalité arménienne en général. Ouais. Donc t'as pas de visa pour rentrer, il te laisse à la porte. Lui déjà n'était pas allé au match de Karabakh en phase de poule de la compétition en début de saison. Cette fois, il a jugé encore une fois que sa sécurité à lui et donc la sécurité du reste de l'effectif, mais aussi du reste de la délégation d'Arsenal, n'était pas complètement assurée. Et crois-moi, il aurait vraiment voulu y aller. Il a pas pris ça à la légère du tout. Il s'est pas dit je vais rester là. Ils ont vraiment pesé le pour et le contre. Et c'est assez triste pour lui déjà, et puis aussi pour Unai Emery, ça lui enlève une option sur le terrain. Et c'est vraiment dommage quand la politique et le sportif se mêlent comme ça pour empêcher un joueur comme Mkhitaryan de participer à une finale européenne.
À Chelsea, pendant ce temps-là.
À Chelsea, alors c'est quand même. C'est aussi l'histoire pour eux de cette fin de saison. Ils avaient prévu ce match amical bidon qui ne servait à rien aux États-Unis en début de saison, sans bien sûr savoir qu'ils joueraient la finale de l'Europa League cette semaine. Ils sont donc allés à Boston pour jouer ce match amical où Ruben Loftus-Cheek, qui était un de leurs meilleurs joueurs ces dernières semaines, qui avait notamment été très bon en demi-finale retour, surtout en première période contre Francfort, qui se blesse et qui donc ratera lui aussi la finale comme Callum O'Shea. C'est là où tu te rends compte qu'à un moment business,
c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. À un moment donné, quand tu prépares une finale de coupe européenne, peu importe sur la Ligue des Champions, l'Europa League,
la thune avant les trophées.
Tu peux pas. C'est pas comme ça que tu prépares ce genre de match. Et c'est bien fait pour le joueur, parce que le joueur, il est obligé d'aller là où on lui dit et de jouer les matchs qu'on lui dit. Mais c'est bien fait pour Chelsea. Je suis désolé.
C'est pas le moment de faire du marketing. C'est que Chelsea, n'imaginez pas en début de saison être en finale de Ligue Europa.
Parce que c'est quoi, tu sais quoi, c'est déjà une première erreur, parce que tu dois tout envisager et tu dois pas placer un match là, tout simplement. Et si tu commences à être en quart de finale, tu sais quoi, au niveau marketing, tu t'arranges, t'as prévu des clauses pour dans l'organisation de ce match là qui te permettent de louper ce match là,
d'annuler,
bien sûr.
Et Sarri était furieux pour cette année.
Bien sûr qu'il est
furieux.
Lui
qui voulait pas faire les tournois en Chine au début de saison l'année dernière avec Naples.
Non, mais l'hérésie du truc, quoi. Le déplacement,
le amical, la rende fou.
C'est Boston quand même, c'est quand même jet lag dans les dents.
Ah ouais, c'est
vrai que Sarri n'a pas un profil de grand voyageur. Je me marrant, je le vois pas trop avec son sac à dos, avec traverser l'Australie, tu vois.
La semaine dernière, c'était le qu'est-ce qui va se passer.
Oui, Julien. Catastrophe.
La semaine dernière, c'était le Media Day de Chelsea, donc où il y avait toutes les interviews, on a assisté à l'entraînement, et je suis arrivé en même temps que Mauricio Sarri, qui fumait dans sa voiture les vitres fermées. J'ai trouvé ça, alors qu'il faisait très beau, c'était un jour, il faisait très beau, et c'était énorme. Il m'a fait coucou avec sa main, avec la cigarette dans la main. C'était cool, mon pote. Non, c'était vraiment, il est vraiment spécial. Ce match-là, donc, avait été arrangé avant que lui rejoigne le club au mois de juillet, parce que rappelez-vous, il est arrivé très tard finalement dans la pré-saison à Chelsea. Ce match avait déjà été organisé, et financièrement, Pierrot, tu peux plus après faire marche arrière. C'est à partir du moment où tu as donné ton accord, que tu as encaissé l'argent des promoteurs de cette rencontre amicale là aux États-Unis, peux plus, finale ou pas finale,
ils ne pouvaient plus faire jouer marche arrière. Ils avaient qu'à prévoir avant de signer ce genre d'accord.
Pour finir sur ça, donc Callum Hudson-Odoi, qui est le petit prodige, lui s'était blessé il y a quelques semaines, donc on savait qu'il serait pas là, et il y a un point d'interrogation sur N'Golo Kanté, qui visiblement a encore un petit peu mal au genou. Il a raté la séance d'entraînement hier. Chelsea pour l'instant ne communique pas trop sur son état de santé, s'il pourra être là ou pas mercredi. Ce serait forcément un énorme coup dur s'il n'était pas là, mais je pense que même s'il faut une petite infiltration ou quelque chose, il jouera la finale. Mais c'est vrai que c'est pas idéal non plus que Kanté ne soit pas non plus lui à 100%.
Ouais. Alors moi j'ai une question très importante. Excuse-moi de parler un petit peu de moi, mais hasard, parce que comme on l'attend ici, ça va dépendre du résultat. Alors est-ce que tu connais, mon cher Julien, le guide des festivités en cas de triomphe de Chelsea mercredi soir?
La fête c'est que j'allais
jeudi,
y venir.
Vendredi.
Mon frère, j'allais y venir parce que surtout ce qui est assez étonnant, c'est que rien n'est prévu
au niveau du scénario.
Non, c'est surtout qu'il n'avait pas besoin de lui dire, il avait tout prévu, Fred, surtout.
Bien sûr, Daniel a déjà choisi, parce qu'il voit les choses à l'avance.
Évidemment. Alors, Julien, qu'est-ce qu'il y a de prévu?
Rien n'est prévu. Ils ont aussi le seul club des quatre clubs anglais qui n'a pas prévu de parade et de festivités en cas de victoire mercredi soir.
Ils ont tout prévu avant les matchs amicaux, etc., mais rien après.
On a fait de calcul ici, donc c'est un match qui est loin quand même, donc ils vont rentrer jeudi très tard, donc a priori plutôt les festivités vendredi, on est d'accord à peu près entre jeudi et vendredi, donc le Real ne peut pas le présenter le vendredi, samedi dimanche, samedi finale de Ligue des Champions, c'est dimanche, donc et mardi Hazard rejoint la Belgique pour les matchs de qualification pour l'Euro, donc il n'y a que lundi 3 juin pour présenter Hazard.
Bon, après ses vacances, sois pas pressé, Fred.
Non, il faut annoncer des trucs bientôt là, parce que donc.
Alors, info maintenant concernant la finale de Ligue des Champions. Qu'en est-il d'Harry Kane?
Alors, Harry Kane était là aujourd'hui. Il s'est entraîné, on l'a vu. Il a aussi parlé aux journalistes anglais, notamment en zone mixte, où il a dit qu'il était prêt à jouer, qu'il a donc pas joué depuis 6 semaines, et cette blessure, on s'en rappelle, lors du match aller contre Manchester City en quart de finale, lors d'un choc avec Fabian Delph. Il est revenu. Il a l'air à 100%.
Ça compris qu'il jouerait pas.
Alors, c'est pas encore aussi clair que ça, Gilbert, parce que Pochettino, lui, pour l'instant, reste très diplomatique. Je sais pas encore s'il pourra être titulaire, ou il pourra simplement entrer en jeu, ou s'il pourra même ne pas être sur le banc. C'est ce qu'il nous a répété aujourd'hui à nous, dans une interview que vous pourrez voir avant la finale, mais aussi en conférence de presse pour les autres médias. Il y a forcément ce point d'interrogation. Est-ce que tu mets d'entrée Harry Kane, qui est quand même ton meilleur joueur, qui est ton vrai buteur, mais avec qui tu peux aussi faire jouer Lucas? Ça veut pas forcément dire que Lucas va se retrouver sur le banc. Est-ce que tu gardes Kane sur le banc pour un super sub ou un joker si les choses se passent pas bien, en sachant que c'est pas non plus trop sa force de pouvoir entrer en jeu la 60e ou 65e ou 70e. C'est un joueur qui met un petit peu de temps en général à entrer dans ses rencontres, donc c'est pas forcément le mec qui va t'apporter un impact tout de suite. C'est une question qui passionne beaucoup de gens ici en Angleterre, à savoir quoi faire avec Kane. Est-ce que tu le mets d'entrée? Mais ce serait forcément très dur pour celui de Son ou Lucas qui manquerait à l'appel et manquerait dans ce 11 titulaire.
Entre Son et Lucas, qui va choisir Son. Lucas
Son.
Alors, tout le monde choisit Son.
Lucas, si t'as qualifié, il vient de te mettre un triplé en retour, c'est compliqué aussi.
Son, c'est encore autre chose, Julien, quand même.
Oui, ah non, mais c'est sûr. Mais après, est-ce que
il y aura des rentrées. Ils vont pas jouer. Tu vois, c'est un match où assurément Lucas peut faire
Il aura son rôle à jouer. Mais dans l'entrée de jeu, j'imagine plus Son que Lucas.
Oui, non, mais peut-être. Après, on l'a vu, Lucas, aujourd'hui, il est encore, il marche encore sur l'eau. Et visiblement, l'entraînement depuis ce match retour contre l'Ajax, il est assez exceptionnel. Il s'est bien posé. C'est les trois semaines qui se sont écoulées, pardon, entre le dernier match de championnat et donc cette finale. Ils ont beaucoup travaillé collectivement et Lucas.
Et les deux, on peut pas mettre les deux,
Pochettino. Tu peux mettre aussi les deux, tu peux aussi mettre Kane et Son et Lucas, après à Pochettino de s'arranger, c'est peut-être aussi compliqué, mais...
C'est quoi, c'est Dele Alli qui fait les frais?
Ben, ou Eriksen, ou alors, ça va être compliqué de faire jouer tout le monde ensemble.
Il est obligé de démarrer, pas démarrer avec lui, quand même.
Mais est-ce que Lucas, des trois, est-ce que entre Kane, Son et Lucas, est-ce que Lucas c'est finalement pas ta meilleure arme pour entrer en cours de match
Julien, pour conclure, donne-nous ton favori sur la finale de l'Europa League d'abord. Juste en un mot, je veux juste le nom du club, pour toi.
Arsenal pour mercredi soir en Europa League.
Et samedi.
Et Liverpool, même si je pense que c'est écrit quelque part que Tottenham, après tout ce qui s'est passé cette saison, c'est leur destin et qu'ils vont la gagner cette finale aussi.
Alors, parle-nous maintenant du barrage du jour entre Aston Villa et Derby County.
Le match à 150 millions d'euros, effectivement, à Wembley, la finale, donc ce barrage de promotion pour monter en première ligue entre Aston Villa et Derby County, remporté par Aston Villa, donc 3 ans après leur descente en Championship, ils retrouvent l'élite. La première ligue, c'est quand même un des clubs historiques, un club qui a gagné la Coupe des Champions, par exemple. Derby aussi, mais plus Aston Villa quand même, plus Aston Villa, je crois qu'il y a que 4 ou 5 clubs anglais qui ont gagné plus de trophées. En tout cas, qu'Aston Villa, c'est un des clubs historiques.
En 92, ils ont gagné la C1.
Exactement, ouais. Ce sera au moment de la domination anglaise, qui à l'époque, dont les clubs gagnaient tout, que ce soit Liverpool, Nottingham Forest ou donc Aston Villa, voire même Everton. Ce sera leur 106e campagne, dans l'élite.
Everton,
anglaise,
la C1, ils ont jamais gagné.
La C1, ils ont jamais gagné. Non, pardon. Everton, mais en Coupe européenne, en Coupe européenne, c'est vrai que c'était la grosse domination. Dans les coupes européennes et d'un côté voilà, ils le méritent peut-être un peu plus que Derby cette saison parce qu'ils ont vraiment été assez solides depuis l'arrivée de Dean Smith, donc leur entraîneur qui est venu de Brentford au mois d'octobre, qui lui est un vrai supporter d'Aston Villa depuis son enfance, c'est là où il a grandi et c'est assez une belle histoire, c'est un club très riche, faut quand même pas l'oublier, avec un propriétaire américain milliardaire qui aussi détient une partie des Milwaukee Bucks pour les fans de NBA et un milliardaire égyptien aussi.
Ça va être un club où certains Français vont pouvoir aller refourguer de la matière première.
Ouais. C'est possible, c'est vrai qu'il va avoir beaucoup d'argent.
C'est dit avec tellement de... Daniel, respecte un peu les joueurs.
Ah mais là, je pense qu'il y a de l'agent qui va pouvoir... ça va pouvoir
croquer l'agent maintenant.
Allez. Pierre, regarde, il y a des quoi faire là.
Oh là.
Quel manque de respect. Non, mais c'est vrai pour qu'il ceux va falloir... qui gèrent la carrière des joueurs
Si je suis Zubizarreta, le numéro tout de suite, le numéro d'Aston Villa pour aller refourguer 2-3 de mes vieux là qui tiennent plus.
Ouais, mais Aston Villa vont pas te prendre ces joueurs là. Qui?
Bon, tu vas pas essayer de refourguer Payet?
Ah bah moi je pense que Aston Villa n'ira pas sur Payet.
Hein. Thauvin.
Ouais. Thauvin.
À la limite, ouais. Ouais, carrément. Thauvin, pourquoi pas.
Au Campos?
Est-ce que Thauvin veut aller à Aston Villa? Je sais pas.
Bah, c'est pour ça que je te parlais des autres. Autre chose, ouais. Qui serait pas contre prendre le Checos. Bah,
Campos. Dernière petite info, Julien. Alors, Newcastle pourrait être acheté par un milliardaire émirati. Oh.
Exactement. Le chèque.
Ils en ont plusieurs.
Khaled Bin Zayed. Pardon pour la prononciation si c'est pas bon. On parle d'un accord déjà entre Mike Ashley, qui est le propriétaire assez sulfureux actuel de Newcastle, un businessman anglais, et donc le chèque qui est donc le cousin du propriétaire actuel de Manchester City. Il fait partie de la famille royale d'Abu Dhabi et qui achèterait le club de Newcastle pour environ 350, un peu plus peut-être, millions d'euros.
Il a d'oseille le cousin, parce que souvent, tu sais, dans la famille, les cousins, il y en a des... Ça dépend, hein. Faut tomber sur le bon cousin.
C'est pas très clair, effectivement.
Ils avaient pas le bon cousin, t'as dit.
Ah oui, exact.
Exactement.
Tu regardes Donald, son cousin, Gontran. C'est rien à voir, Gontran et Donald, c'est pas le cousin, mais... T'en as un qui a beaucoup de chance, l'autre c'est un loser.
C'est pas le cousin de Donald, c'est le cousin de Pichou.
Gontran, c'est le cousin de Donald.
Ah bon?
C'est l'oncle, Pierre.
Si vous voulez bien.
Franchement, quand je t'écoute, Julien, c'est uniquement la jalousie qui fait parler. Hein. Alors, les entraîneurs d'Angleterre, c'est pas des Anglais. Les joueurs titulaires sont pas des Anglais. Les clubs, c'est leurs propriétaires, ce sont des milliardaires de l'extérieur. En gros, dans le foot anglais,
on vient de te dire qu'Aston Villa avait un entraîneur anglais, non? C'est pas ça, Julien?
Ah, il y en a tout un, oui, mais bon.
C'est un supporter du club.
Ça vient d'être en première ligue.
Fred, c'est le pays du Brexit. Tu veux pas que c'est des étrangers?
Et tant que le public est anglais, tout va bien.
C'est la mondialisation du football, Fred.
C'est la mondialisation du football.
On est d'accord.
Bon ben voilà, pour Newcastle, donc à suivre, hein, c'est pas encore définitif, mais enfin on va dire que c'est en bonne voie cette vente. Un truc à rajouter dans ton actu anglaise, Julien?
Non, juste sur Liverpool, j'ai pas dit, mais demain ce sera à eux leur journée des médias. Donc aujourd'hui c'était Tottenham, il y avait beaucoup de monde. Mauricio Pochettino était la grande star, tout le monde voulait absolument parler à Pochettino. Il était très détendu, très à l'aise. Demain ce sera donc au tour de Jurgen Klopp et de ses joueurs de faire face aux médias du monde entier. Et le compte à rebours de cette finale de samedi arrive. Liverpool qui était parti à Marbella pour s'entraîner une semaine, les joueurs sont rentrés dimanche.
Et se reposer.
C'est le même endroit. Où ils étaient déjà l'année dernière, avant la défaite contre le Real Madrid, donc tout le monde espère que cette fois, ça leur apportera
un peu plus chance. Si ça passe pas, ils vous tromperont jamais les pieds là-bas, ça c'est sûr.
Ah ça c'est sûr.
Pourquoi le jour férié aujourd'hui, Julien ? Pour se reposer, il y a d'autres endroits d'Espagne quand même.
C'était quoi le jour férié ?
C'est le dernier lundi du mois de mai, toujours férié en Angleterre. Le premier et le dernier.
Ouais, d'accord, mais pourquoi ? Le jour férié, il y a des raisons.
C'est comme ça, c'est comme ça.
Bank holiday.
Pour moi, le premier, le dernier, toujours.
C'est malin de dire qu'il ne sait pas, en fait.
Oui, parce que, oui, voilà.
Je sais pas d'où ça vient,
Sur Internet.
Il y a toujours une explication.
Il y en a quelques-uns, il y avait des explications, et là, effectivement, il n'y avait rien marqué. Il y avait juste marqué.
Non, je crois que c'est pas, il y a pas, voilà, c'est un peu comme le je sais pas le.
Non, nous, équivalent. Non, on cherche pas en France, on a des explications.
Toujours une explication.
Vous avez beaucoup plus de jours fériés en tout cas en France qu'on
pense une explication, sinon tu.
Le jeudi de l'Ascension n'est pas férié en Angleterre.
Il est pas férié en Italie non plus.
Ni le lundi de la Pentecôte non plus.
Alors que tu te dirais c'est une fête catholique en Italie, mais c'est pas férié.
Il est pas férié non plus, il me semble.
En Espagne, je sais pas si le jeudi de l'Ascension.
Non, je crois qu'il est pas férié. Je crois que c'est pas férié.
Bah c'est jeudi là, donc tu dois le savoir. Est-ce qu'après-demain ça bosse en Espagne? Enfin après-demain.
Le quand tu dis pardon?
Le jeudi de l'Ascension là, c'est-à-dire dans 3 jours, c'est férié en Espagne?
Non, c'est pas férié.
Non. Bon, bah voilà.
Non, les Espagnols, c'est eux qui ont le plus de jours fériés.
Ouais, mais parce qu'il y a toutes les communautés autonomes, il y a tous les saints, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours fériés, c'est vrai.
Dans quelques instants, nous sommes de retour pour le reste de l'actu européenne, bien sûr. Pas, bougez pas.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à Mignon, les Bronze de l'âme, plus Daniel Riolo, plus Pierre Ducrot, messieurs, j'aimerais qu'on accueille Philippe au 32-16. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe.
Philippe, tu as tout.
Salut Philippe.
J'habite Nantes.
Eh ben voilà. On t'offre 2 places pour France-Bolivie dimanche, c'est cadeau. Cadeau de l'after.
Je suis ravi, c'est pour ma fille Emma, elle est fan de Kylian Mbappé, elle va être, hyper ravie.
Eh ben parfait.
Alors attends, Philippe.
On souhaite à Emma un bon match.
Il y a quand même, pour avoir les places, il y a une dernière question. Il faut que tu nous cites quand même un joueur bolivien de la sélection nationale.
Un joueur
bolivien.
Bon, attends de ta chance avec un Morales ou un Garcia.
Non, ouais, c'est Garcia, Sanchez, Dominguez.
Escobar.
J'en ai même pas.
Non, c'est Colombie, ça.
Fred, il y a un Pablo Escobar, la sélection bolivienne.
Ah non, c'est vrai.
Véridique.
Non, mais s'il a pas cité, il a pas la place.
Ah non, s'il a pas cité, il a pas la place.
Philippe, t'inquiète pas, tu as les 2 places. C'est le cadeau de l'after. Et on te souhaite un bon match si tu y vas, ou bien si tu en fais profiter quelqu'un. Voilà, c'est cadeau.
J'y vais avec ma fille.
Eh ben, bravo à tous les deux.
Bravo.
Et bon match dimanche. Salut Philippe.
Ciao Philippe.
Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.
Bonne soirée. Ciao.
Tu vois Daniel que ça fait plaisir.
Erwin Platini Sanchez. Le Bolivien le plus célèbre.
Ah, mais ça, fait un petit moment quand même. Hein.
Ouais, ouais. Attends, je viens de regarder la sélection.
Après, il a été sélectionneur.
En 2 secondes, j'ai trouvé un joueur de 40 ans, un de 39, un de 37.
L'expérience en Bolivie, mon vieux. Va jouer, toi, à 4500 mètres d'altitude.
Ouais, ça conserve un candidat.
Combien ça peut faire? 5, 6?
Voir 7-8, je sais pas.
Attention, parce que les Sud-Américains.
Ouais, faut faire attention.
Ils prennent pas forcément les lances et surtout ils mettent des coups quand ils commencent à prendre des buts.
Ouais, bon, enfin là, Bolivie, c'est vraiment en dessous, quoi.
Bref. L'autre barrage du jour, alors il y avait le barrage anglais, mais il y avait un barrage en Allemagne.
Eh oui.
Et là, c'est un club assez atypique qui va rejoindre la Bundesliga, mon petit Lorto.
Ouais.
L'Union de Berlin, c'est un peu le Red Star.
Exact.
De Berlin.
On s'en remet à peine.
Tout à l'heure,
On s'en remet à peine. C'est le 56e club qui va fréquenter la Bundesliga.
Ils sont jamais montés.
Jamais montés, non. 5e club de Berlin, quand même, à visiter ce niveau de la compétition en Allemagne.
C'est quoi, c'est qui les autres? Et le Dynamo Berlin.
Alors le Dynamo Berlin, c'est l'adversaire.
L'Allemagne de l'Est.
Les Knacki.
C'est l'adversaire.
Hertha, Dynamo, Union,
Berlin, je pense.
Le tennis.
Ouais. Tennis. Ouais, tennis.
Mais Garland, ça, c'est
Ah, merde. Il y a des clubs, bah oui. Après, je les ai pas tous les cinq en tête, mais.
Le volley Berlin, non?
Ça peut, hein. Il y a ce genre de choses, hein.
Oh, eh ben, tu sais, le patin, le.
Y a pas le Bayer de Berlin, non?
Le riz coquet, le hockey sur Bayer, patin roulette du Marseille, ça s'appelle FC Barcelone,
hein. Ah ouais, mais Bayer,
Jean Bayer, Berlin.
Non, mais c'est intéressant que tu parles du Dynamo Berlin, parce que c'est un peu le grand rival, parce que le Dynamo Berlin, c'était le club qui était un peu proche de la Stasi, alors que l'Union Berlin a, lui, toujours été très contre la Staatssicherheit, la fameuse police politique.
J'ai visité le musée de la
de l'Allemagne de l'Est.
Fantastique.
Eh oui. Non mais c'est un vrai événement.
T'as parce vu les dossiers que toi, sur tu me remets dans ma journée où je me suis enquillé dans un voyage, je sais pas combien d'épisodes de Deutschland 86.
Excellente série, par ailleurs.
Je suis à fond en Allemagne, là.
Non, alors, c'est vrai.
Mais maintenant, t'as les yeux rouges, t'es fatigué. Bah,
c'est vrai qu'ils sont un peu beaucoup à l'ancienne, quand même.
Je maîtrise deux, trois mots maintenant, grâce à la série.
Ils sont un peu beaucoup à l'ancienne, c'est un club
qui... Ah, ils jouent pas dans le même stade, dans le stade olympique de Berlin, hein.
Non,
ils ont leur propre stade et tout, c'est...
An der Alten Försterei. Alors, c'est un stade, 22 000 places. Un petit stade de 22 000 places, à peu près. Il y a 18 500 places debout dans ce stade. Un ancien stade avec l'affichage, panneau d'affichage à la main. On change le score à la main là-bas.
C'est pas vrai.
Et oui, ça, et oui.
C'est, mais pourquoi c'est beau?
C'est le dernier club professionnel. Ouais,
mais il peut un peu évoluer là-dessus, Fred. Pourquoi on revient pas au panneau à l'ancienne?
C'est la douche froide là-bas.
Fred, pourquoi on met pas les horloges avec les aiguilles?
La douche marche pas. Ah, c'est beau, putain.
Mais non, faut signaler parce que c'est un stade.
C'est des patates pourries.
Qu'on enlève ces pelouses hybrides là où on peut jouer au foot dessus pour remettre du gazon avec des trous là.
C'est
du
gazon avec les trous.
Non mais franchement, moi, toutes ces technologies, nana, parfois c'est un peu chiant. Moi, le côté un peu simple du football, le gars, c'est pas parce qu'on change le score à la main que le gazon il pourrit.
Non,
d'ailleurs, bien sûr. Il doit être bien,
non, David. C'est mieux d'avoir deux mecs
par des centaines et des centaines de supporters ce soir. Vous verrez.
Ils ont quand même un budget de 47 millions.
Oui.
C'est quand même assez conséquent pour un club de D2.
Oui,
ils pourraient mettre un panneau électrique.
C'est beau. C'est
vintage.
Ça fait plaisir à Fred Hermel.
Toute proportion gardée, c'est un peu comme Saint-Pauli, le fameux club tambour. Il lui aussi cultive une espèce. C'est une schizophrénie un peu parce que il y a des supporters qui.
C'est bien les clubs qui cultivent leur identité.
Oui, mais c'est à tel point que il y en a certains qui ont carrément pas envie de monter en première division parce qu'ils ont peur que le commercial envahisse tout et que
bon, l'Union de Berlin, ils ont 12 pubs sur leur maillot. Excuse-moi, je crois qu'ils ont pas attendu de monter pour
Adidas, pardon. Enfin, je sais pas si on peut citer les équipementiers, mais le grand équipementier de Hertha va arriver la saison prochaine en équipement pour l'Union de Berlin avec 700 000 euros de apporté, voilà. Le sponsor actuel change, donc ça va être
dotation financière ou 700 000 euros d'équipement.
On n'a pas précisé quand même qu'ils font descendre le Stuttgart de Pavard qui jouait là. Hein.
Et voilà. Alors Stuttgart, pourtant, avec sorti la grosse artillerie.
S'en fout, hein.
Ouais, il a pas été bien terrible hein, encore ce soir. Ils ont sorti quand même la grosse artillerie Stuttgart, tous les internationaux pour essayer de se maintenir. On n'a même pas dit le score 0-0 alors qu'il y avait eu 2-2 à Stuttgart à l'aller. Donc l'Union va monter au bénéfice des buts à l'extérieur.
Et Stuttgart en Ligue 2, c'est pas arrivé récemment?
Bah oui. Ils ont été champions en 2007.
Ouais.
Descente, remontée. Mais alors là, c'est un peu, il y a une forme de dramaturgie.
C'est un club important historiquement, quand même, en Allemagne.
T'as 600 000 habitants. Ouais. Il y avait Mario Gomez sur le terrain en deuxième période. Il y avait Denis Saogo, ancien international allemand. Il y avait Batschtuber qui a payé de sa personne parce que il a eu l'arcade ouverte. Enfin, ça a été un
Mario
match
Gomez.
Dramatique.
George McFly.
Ouais, mais alors
comment
le problème.
Tu fais l'arcade ouverte?
Il s'y fait. Vous savez pourquoi j'ai fait ça?
Ouais.
Pour les auditeurs qui voient pas, j'ai mimé.
Les gens ne voient pas en général.
J'ai mimé, voilà. Non, parce qu'on a la télé aussi maintenant. Hein. Il paraît.
C'est ça, là, c'est le téléspectateur du coup.
Non, parce qu'il a eu un gros bandeau épais. Okay. L'autre défenseur central aussi a payé aussi de sa personne. Non, mais ça a été un match avec une énorme tension. Moi, j'aime beaucoup les matchs de barrage. J'avoue, en Allemagne, dans les dernières années, il y a eu quand même des trucs.
Et les Allemands ont l'intelligence de faire le retour chez le club de D2. Ce que je trouve très bien. En France, ils se sont fait avoir à l'oseille pour avoir un peu plus de thunes.
Le match coup près, quel qu'il soit, c'est là où t'as la meilleure intensité.
Ah bah avec Hambourg, on a vécu des trucs incroyables dans la dernière décennie. Et puis là, c'était pas mal quand même encore ce soir. Il fallait qu'on en parle. Et puis ce club de l'Union, figurez-vous que l'hymne du club dit « Qui est-ce qui va pas se laisser acheter par l'Ouest ?» C'est l'Union Berlin. Voilà un peu le...
Ah bah retour à la RDA.
Avec leur panneau en bois.
Franchement, ça fait rêver.
Ils arrivent quand même à remplir le stade quasi à 100%.
La RDA, vraiment, c'est...
Et surtout, c'est un club qui s'est stabilisé.
D'ailleurs, on cherche encore ceux qui de l'Ouest voulaient passer à l'Est à l'époque.
Il y en a eu quelques-uns, mais
ça se bousculait au portillon, évidemment. Hein, ceux qui voulaient aller de l'autre côté, évidemment.
Mais figure-toi, Daniel, quand même, que c'est le, ça fait 10 ans qu'ils sont en deuxième division, l'Union Berlin. Je crois que c'est le club de deuxième division qui a passé le plus de temps, qui piaffait d'impatience de monter. Ils ont failli, je crois qu'ils étaient quatrième il y a deux ou trois saisons. Ils sont pas passés loin.
Est-ce que vous pouvez éviter de lancer Daniel Riolo sur les sujets liés au communisme, s'il vous plaît?
C'est ce que j'allais dire.
On passe à la suite.
Pardon, mais à un moment, faut quand même rappeler parce qu'il y a des fois des modes.
Petit bilan de fin de saison en forme d'avis tranché ce soir, Gilbert, Nico Kovac, pour moi, après la victoire en coupe qui offre le doublé au Bayern ce week-end, victoire en coupe contre le RB Leipzig, 3-0, score un peu flatteur, mais le Bayern a gagné de façon méritée ce match-là, cette coupe, doublé donc pour ce Bayern de Kovac, première saison pour lui, c'est pour moi, c'est l'avis tranché que je voulais développer rapidement et simplement ce soir, c'est le grand gagnant de la saison. Parce que Nico Kovac a été durement mis en question, a été fragilisé, a été capable de d'apprendre de ses erreurs au cours de la saison. Je crois que c'est le premier coach à gagner coup sur coup une finale de coupe avec deux clubs différents en Allemagne. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, ça veut dire que c'est un winner. Tu parlais de loser tout à l'heure, Daniel, dans un autre contexte. Je trouve que cet homme-là apprend de ses erreurs. Il a réussi à maîtriser un vestiaire avec beaucoup de trentenaires, les Robben, les Ribéry et d'autres, qui n'étaient pas forcément évidents à gérer cette année, avec notamment un Boateng, par exemple, aussi, qui veut maintenant...
Ça va peut-être le libérer que les, voilà, que les anciens...
Et puis des trentenaires qui ne prolongeaient pas, etc. Dans un contexte particulier.
Il a peut-être, Nico Kovac, franchi les barrières les plus difficiles cette saison. Il a été beaucoup contesté. On sait qu'au Bayern, tout est encore ouvert et qu'il n'a pas encore une certitude absolue de continuer, mais il devrait quand même pouvoir poursuivre son travail. Et après tout, il y a d'autres coachs légendaires en Allemagne, les plus récents, Klopp et d'autres, qui ont commencé leur toute première saison. Avant d'être bons 10 ans plus tard, ils ont eu des hauts et des bas. Et Kovac, alors oui, on peut lui reprocher de pas avoir développé un jeu ultra flamboyant. Oui, on peut lui reprocher de pas avoir une identité de jeu extrêmement précise. N'empêche que il a rendu le sourire quand même aux deux présidents hier. Sur la Marienplatz à Munich hier, il y avait les festivités un peu médiocres d'ailleurs du Bayern. Il n'y avait pas une ambiance d'enfer en centre-ville hier.
Ils ont trop l'habitude.
Bah c'est un club qui sent bourgeoise aussi. À un moment, enfin, qui sent bourgeois, ce qui a toujours été un peu comme ça. Mais il a quand même rendu le sourire à ses dirigeants. Et je pense qu'au Bayern, quand tu gagnes des trophées en fin de saison, même si le jeu a pas forcément été top flamboyant, voilà, t'as rempli le contrat et Nico Kovac a franchi, à mon sens, les obstacles les plus compliqués et il va pouvoir maintenant travailler avec une équipe renouvelée, rajeunie. Il y a des transferts qui sont en cours. Le Callum Hudson-Odoi dont parlait Julien tout à l'heure, c'est encore d'actualité. Le Roi Sané, c'est un dossier difficile mais qui est possible aussi. On va voir des jeunes arriver au Bayern comme un petit prodige d'Hambourg qui s'appelle Harp, qui arrive aussi à 19 ans. Le Bayern va se renouveler. Harp, ARP, hein, c'est pas un instrument de musique, c'est pas un pipeau non plus. Enfin, je crois pas. Mais voilà, il va avoir l'occasion de peut-être avoir un peu le temps de faire ses preuves, Nico Kovac. Et pour moi, c'est le grand gagnant de la saison parce que les deux trophées, bah, c'est lui qui a réussi à les.
Même si on les a fêtés, comme tu disais.
De façon un peu, il n'y a pas eu une ambiance extraordinaire.
Tu sais, c'est le titre plus quand même, non?
C'est quand même.
On a même dit nous ici que le Bayern, quand il est champion, il le fait.
Il y avait des émotions aussi.
C'est quand même assez extraordinaire, et c'est pour ça que. Bon, on en a beaucoup parlé, réforme Ligue des Champions, ce qui va advenir, machin, mais tu prends la Juve, tu prends le PSG, tu prends le Bayern un degré moindre, tu prends le Barça depuis cette finale de coupe perdue. Et il se trouve que j'étais en Espagne ce week-end et j'ai vu certains débats, j'ai entendu les avis des uns des autres sur la saison du Barça. Des équipes championnes, mais qui au final affiche un bilan que des gens jugent passable.
Oui, exactement.
Parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions.
Parce que Coupe d'Europe, parce que ceci, cela. Donc, on est...
Le 29e titre et 19e coupe gagnée par le Bayern.
Factuellement, la compétition nationale, et je dis pas, c'est pas mon choix, c'est un constat.
Non, mais tu trouves ça bien, toi, Daniel?
Mais je dis pas que je trouve ça bien ou pas. Pour l'instant, je constate. Bizarrement, ça perd un peu de valeur.
Alors qu'en Allemagne,
chez
pourtant...
les équipes qui ont l'habitude. Le Bayern, oui. C'est quasi tous les ans. La Juve, on parle pas. Le PSG.
Ouais, mais c'est pourtant, pas normal.
En Espagne, tu vois, c'est marrant parce que s'il y a une équipe aujourd'hui en Espagne qui doit faire la gueule pour sa saison et tout,
c'est le Real.
Bon, c'est le Real. Alors, Fred va nous dire, et il a raison, il y a aussi l'Atlético qui fait la tronche. Mmh. Et le Barça, qui a été championne, mais qui s'est fait humilier en Ligue des Champions et qui a raté samedi soir, ça a été terrible ce qui s'est passé pour eux.
Ah, non, mais c'était
j'y étais, j'ai vu la finale et tout. À la télé, ils étaient en transe. Valence qui, de façon inattendue,
gagne.
Et ben, le Barça, finalement, ce matin, tous les débats en Catalogne, ils étaient en panique. Ouais. Est-ce que notre saison est pas ratée?
Ça, c'est comparable, t'as raison.
C'est faux, quand même, hein.
Alors après, il y a un contexte pour le Barça, c'est que le Real a gagné 4 des 5 dernières Ligues des Champions. Et ça, c'est trop dur pour eux. Ouais. Parce que leur Liga n'ont pas existé parce que le Real gagnait la Ligue des Champions. Et cette année, leur Liga n'a pas existé parce que eux s'attendaient à gagner la Ligue des Champions, puis il y a eu cette claque monumentale à Liverpool. Donc le contexte est important. Mais c'est vrai que pour beaucoup de clubs historiques aujourd'hui, et d'ailleurs, comme par hasard, ce sont ces mêmes clubs-là qui sont en faveur de la réforme de la Ligue des Champions.
Oui.
Dans quelques instants, on en parle justement, Fred, et puis Simone a encore d'autres infos. Il n'y a pas que Leonardo dans la vie en Italie. Oui, Fred.
Ce soir, je vis une belle leçon d'humilité parce que normalement, à la fin mai, je passe en premier, je suis la star. Là, je passe en troisième, 23h40. J'assume, je suis un loser cette saison.
Moi qui étais là lors du conducteur, t'as failli pas venir, Fred, même.
Oui, je sais. C'est parce que on a dit, ouais, le vieux, on va le prendre quand même, le vieil oncle, un peu alcoolo, là, tu sais.
Tiens, j'ai Yves sur Direct Studio qui nous dit Harpe, ton joueur, Harpe.
Fidèle Harpe.
C'est pas une trompette.
C'est mignon.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
23h44, l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, les drôles de dames. Donc, elles sont là. Mais que veut aller foutre Sergio Ramos en Chine, mon cher Fred Hermel? Est-ce que c'est vrai? On retrouve ça sur rmcsport.fr. Que se passe-t-il?
Alors, je vais vous expliquer. Alors, ce film-là, je l'ai vu deux fois, hein, déjà. C'est-à-dire que c'est la même histoire. Je connais très bien Ramos, je connais très bien son frère, René, qui est son agent.
René Ramos.
Eh ben, ouais, voilà.
Très bizarre,
c'est dans le texte.
Ouais.
Bah oui, bah, voilà. On va pas se plaindre des gens qui sont un peu francophones et francophiles.
Non, très bien, pas de problème. Donc, tu dis René.
C'est surprenant.
Mais René n'est pas une taupe. Mais il aime bien, Ouais, c'était drôle, non?
Non, oui, René Latope.
C'est un peu facile.
Oui, facile, mais bon.
T'as écouté René Latope?
3h44, troisième au niveau du passage. Voilà, je baisse mon niveau parce que, voilà, je suis plus grand-chose, moi, maintenant. Non, sérieusement, il veut plus d'argent, mais il fait une grosse connerie. Ce genre de bras de fer, parce que René Ramos a beaucoup de contacts dans les médias, donc il sait, vous savez, puis des mecs, ils vont dire, on est une grosse exclue et tout, alors qu'ils sont en train de se faire manipuler par l'agent du joueur, on connaît ça.
Ils le savent, non?
Ouais, mais non, mais ils se vantent en disant on a une super exclue, etc. Enfin bref, c'est le typique bras de fer que lance Ramos pour être augmenté. Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a Hazard qui arrive. Et que Ramos est à 13 millions, il me semble, 13 millions net par an. Hazard va devenir le joueur le mieux payé du Real. Parce que si Mbappé vient, ça sera 20 millions net par an. Donc... Ramos sent qu'il va être un peu déclassé dans la hiérarchie des salaires, donc il fait son petit cinéma habituel. Sauf que quand on est Ramos, qu'on marque le but à la 80e minute de l'égalisation à Lisbonne en 2014, qui permet de gagner une Ligue des Champions, on peut venir réclamer de l'argent. Mais quand on est le capitaine d'une équipe qui a été lamentable toute la saison et que soi-même on a forcé un carton jaune, vous souvenez, pour ne pas jouer le huitième retour et que son équipe s'est fait planter par l'Ajax.
C'est normal, c'était bouclé déjà.
Oui, c'est ça. Donc il a fait une grave erreur. Donc c'est pas.
Il l'a pas fait seul, celle-là. Hein.
Non. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, le moment où tu réclames des thunes après une saison pourrie, tu te fais un petit peu, alors que t'es le capitaine, tu te fais un petit peu discret. Et là, il la ramène et il, à mon avis. Il commet une erreur parce que il y en a un qui a un an.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants pourraient lui dire, bon, bah, écoute, si c'est ça, tu te casses?
Ben, c'est la phrase que je terminais. Il y a un an, il y en a un qui s'appelait Cristiano Ronaldo qui a tiré un petit peu trop sur la corde et la corde a rompu et il a dû partir.
Tu crois que Zidane pourrait
ne plus avoir besoin de lui?
Mais non, Zidane compte énormément sur Ramos, c'est un pilier pour lui. Zidane fera tout pour qu'il reste, mais il y a un moment quand il s'agit de négociations de thunes, c'est pas l'entraîneur qui intervient. C'est le président, ça je sais bien, directeur général. Donc, bien entendu que Zidane s'entend très bien avec Ramos, que Ramos est un joueur essentiel, mais là, il se passe quelque chose qu'on a déjà vu, mais normalement, ça se termine par une embrassade et une augmentation de salaire, une embrassade entre Ramos sans son agent et Florentino Pérez sans le directeur général, un truc entre deux mecs qui se disent, allez, on règle le problème, mais il faut pas trop chatouiller Florentino. Et je pense sincèrement que Ramos va rester, mais il faut laisser un petit pourcentage de possibilité que cette histoire se termine mal.
Valence fait quand même une saison incroyable, dis donc, parce que ils finissent en Ligue des Champions, alors que bon, ils étaient quand même, ils ont traversé la saison comme des nobody.
Ils étaient relégués à un moment.
Incroyable.
Alors Valence est une saison. Alors et là je vais parler de quelque chose. Mon cher Julien, nous aussi on a des propriétaires qui viennent de loin. Le propriétaire de Valence s'appelle Peter Lim, il vient de Singapour. C'est le type qui changeait d'entraîneur tous les trois mois à peu près, jusqu'au moment où il a compris que dans le foot, bah, il fallait mieux faire confiance aux gens, aux locaux qui connaissaient le foot, justement. J'ai souvent parlé de lui, hein, c'est Matteo Alemany, l'ancien président de Mallorca, qui est devenu directeur général, et c'est lui qui a maintenu sur le banc Marcelino Garcia Toral quand l'équipe était relégable avant Noël. Quand l'équipe avait été éliminée de la Ligue des Champions, relégable avant Noël, la logique de ses propriétaires en général, c'est de virer l'entraîneur. Là, ils ont fait confiance au directeur général qui a dit « on continue avec ce mec ». Finalement, Valence termine quatrième, donc qualifié pour la Ligue des Champions, fait quand même une demi-finale de Ligue Europa, ce qui est pas mal et qui rapporte de l'argent, et gagne la Coupe face au Barça. Donc c'est une saison extraordinaire pour cette équipe de Valence. J'ai l'impression, sincèrement, que quand on prend les quatre premiers de cette saison, c'est-à-dire le Barça,
ouais, c'est Valence qui est le plus heureux.
L'Atlético, le Real et Valence,
les supporters.
Non, pas le plus heureux, le seul heureux de cette saison, c'est Valence. C'est Valence. Et franchement, Daniel, tu as vu la finale, mais c'est amplement mérité. Ils avaient plus envie.
En plus, il y avait une sacrée ambiance là dans stade à Séville, hein, c'est ça.
À l'autre, au stade du Bétis, au Benito Villamarín, qui est un stade aussi très chaud, qui est devenu le quatrième plus grand stade d'Espagne. Et non, c'était super.
Je joue au poker en même temps, hein, pour dire la vérité.
Et n'oublie pas Fred aussi.
Comment?
Oui, Julien.
Et n'oublie pas aussi la demi-finale d'Europa League. Ils ont, même s'ils sont passés un petit peu au travers, notamment à l'aller, mais c'est vrai que.
Ouais.
Et de jouer aussi sur tous ces tableaux-là, avec l'effectif qu'ils ont, qui est un bel effectif quand même, mais c'est pas non plus celui du Barça ou du Real, remarquable.
Attention, 23h50, Simonet rentre dans la danse avec des infos exclusives, mondiales, concernant Gattuso. Ouais. Ah bah vas-y, vend la cam un peu haut.
Non, pas exclusive, mais c'est des très
exclusive en Ligue de France.
Très très nouveau, parce que c'est
nos collègues. Tout le monde à Milan, alors. Léo, Gattuso, tout le monde.
C'est pas qui m'est vrai. Alors, c'est Sky Sport qui donne l'info en Italie.
Ah oui, du coup, Gattuso, c'est moins exclusif, là, déjà.
Gattuso va démissionner. Voilà. Demain. Ah. Et démission qui arriveront après celle de Leonardo. Il avait encore 2 ans de contrat. Lui va renoncer à ses années de contrat. C'est quelque chose de plutôt étonnant si on écoute ce que sont en train de raconter nos collègues italiens.
Et plutôt classe.
La raison, c'est la même de Leonardo, plus ou moins. La propriété du Milan, c'est-à-dire Elliott, veut vraiment changer de direction. On va miser sur un groupe très très jeune. J'ai l'impression que ça va être un championnat type que celui de Lille de la saison dernière.
D'ailleurs, Elliott est aussi actionnaire majoritaire à Lille. Hein, je sais.
Voilà. Pour l'instant, je reste sur mes infos, c'est-à-dire que Campos, c'est plus lui qui voudrait rejoindre Milan en restant avec un pied à Lille, un pied à Milan.
En gros, il peut faire un peu les deux clubs.
Du coup, Milan peut pas acheter Pépé, ça servira à rien pour le groupe.
Il peut faire on aurait deux clubs.
Exclusivité perdue. Pépé n'ira pas à Milan.
Voilà, ça c'est fait. Mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité au sein de Milan. Il y a un gros problème aussi pour le choix du prochain entraîneur, parce que ils veulent quelqu'un qui soit prêt à lancer des jeunes, à prendre des risques, même à niveau de saison pour Milan, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en saison de très très
haut
niveau.
Donc ils vont faire du trading, quoi.
Voilà, il y a même une hypothèse.
Quelle tristesse pour ce club et son histoire.
Il y a même une hypothèse, ouais. Attention, Milan a été sanctionné la saison dernière par l'UEFA pour le fair play financier, ils sont en train de négocier, il y a une cause qui est ouverte au TAS, que Milan puisse accepter de ne pas participer à la prochaine Ligue Europa, on peut dire pour faire une sanction qui prend la saison dernière, cette année, on peut dire bon, on fait pas la Ligue Europa, mais après les dossiers est fermé, on va repartir à zéro. Et les problèmes pour le nouveau entraîneur, c'est que des profils italiens suivis jusqu'aujourd'hui, il y avait aussi Di Francesco, Simone Inzaghi, sont moins prises en considération.
L'OM, ils auraient dû se renseigner.
Bah, Di Francesco, pour moi,
tout comme l'OM choix... aurait dû se renseigner, Conceição, pour moi, ça, c'est mieux. Les deux que je viens de citer, c'est mieux que Villas-Boas.
Di Francesco, c'est libre des contrats et.
Bah, Di Francesco, je suis l'OM, j'y vais, comme Conceição aussi.
Mais pour dire, ils cherchent des entraîneurs qui sont prêts à travailler avec des jeunes et à lancer des jeunes. Il n'y a pas tous les entraîneurs italiens qui ont envie d'aller au Milan et lancer des jeunes. Donc, ça va être très, très compliqué pour les supporters du Milan et aussi pour les journalistes qui sont invités à suivre.
Il y a des DVD du passé.
Alors, Milan, ok, mais il y a une petite valse de coach qui s'installe, là. Est-ce que tu as des infos en plus ce soir entre la Juve, l'Inter, éventuellement?
Conte à l'Inter, là, c'est bouclé.
La seule certitude, c'est Conte à l'Inter. Certaines annoncent qu'il sera présent en tribune au Vanda Metropolitano pour la finale de la Ligue des Champions à côté des dirigeants de l'Inter parce qu'il va signer cette semaine les nouveaux contrats. Pour la Juve,
Et qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas, les dirigeants de l'Inter?
Ils vont voir le match.
Ils disent on va en repérage, on sait jamais.
Sur le match. Tu pourrais y aller, les libérer tirer, à la finale des Champions.
En studio, avec Daniel.
C'est vrai qu'il bosse.
Ouais,
c'est vrai qu'il bosse.
Donc, si vous chopez Conte, demandez quelque chose.
Très bien.
Donc la Juve, le banc est libre.
Et la Juve, les problèmes, c'est ce que je continue à dire. Il y a un plein A de très haut niveau. J'ai toujours dit Guardiola, mais ça semble impossible. Mais ils attendent la fin, les deux finales des Coupes d'Europe pour voir déjà les résultats et qu'est-ce qui se passe après. Sarri devrait se libérer. Oh, par contre, moi, on m'a assuré que Lampard, c'est le prochain entraîneur de Chelsea. On verra, parce que Sarri va partir, qu'il gagne ou qu'il perd. Et après, on attend de voir aujourd'hui toute la presse italienne, dont Sarri comme favori. Moi, je reste encore sur le fait qu'André Agnelli veut un très grand homme, que virer Allegri pour prendre Sarri, c'était pas ce qu'il voulait faire au début. Ouais. Donc, si Guardiola, c'est impossible, comme certaines disent, attention aussi à Pochettino, parce que moi, pour la connaissance que j'ai du dossier...
Pour Pochettino, ils vont faire le forcing.
André Agnelli ne veut pas un homme de deuxième plan, et Sarri ne peut pas être un homme de première plan pour la Juve. Ce serait quand même un gros pas en arrière en rapport à ce qu'ils
ont dit. C'est Sarri, tout ce qu'il disait à l'époque, il était à Naples, sur la Juve, et comme ça.
Moi, je
sais que dans le foot, on voit de tout, mais là, ça serait...
Sarri, la saison dernière, entre au Juventus Stadium en faisant les doigts d'honneur aux supporters de la Juve du bus de Naples.
Moi, ça, j'ai du mal à y
croire. Quelque chose que Agnelli peut pas accepter.
Ça, ce serait, il mettrait un coup de poignard aux supporters du Napoli s'il fait un truc pareil. C'est.
Et après, il serait pas.
Je sais, le foot est plein de ce genre d'histoire. Mais
je rappelle que Allegri est arrivé sous les crachats et les lancements des œuvres des supporters de la Juve.
Ça, c'est vrai.
Et après 5 ans, quand même, il n'avait pas aimé, mais il a fait gagner.
Il n'y avait pas les mêmes antécédents que Sarri avec la Juve.
Et l'homme qui peut déclencher aussi beaucoup de changements sur le monde, c'est Gasperini, qui a une offre de 2,5 millions par an de la Roma. Pour un contrat de 3 ans, il ne sait pas encore s'il accepte ou pas.
Il
ne
va pas aller faire la Ligue des Champions avec l'Atalante.
Il a cette offre de la Roma, il serait séduit du projet Roma. Et si Gasperini part, quand même beaucoup de choses vont changer sur d'autres mondes.
2-3 infos pour conclure, vous dire que Valbuena a signé à Olympiakos pour une saison.
Génial.
Voilà, donc il continue sa carrière.
Bon, c'est lui, il va bien. Il change.
Oh, la Grèce, c'est génial. Tu vois, toute l'année, c'est bien. Olympiakos.
Olympiakos.
Ah, ça, j'avais pas compris.
T'as compris quoi?
Tu sais, c'est Athènes, super ville, Daniel. On passe des super vacances.
Fred à toutes les adresses.
T'es toujours en Turquie.
Oui, j'étais resté en Turquie, j'ai dit, va dans la maison d'en face. En face, non pas vraiment.
T'as compris, Galatasaray
ou autre? Oui, excusez-moi,
pardon. C'est bien, Olympiakos.
Parle pas géopolitique non plus.
Vous dire que Valérian Ismaël, qui a entraîné en Allemagne et maintenant en Autriche, il entraîne Linz, vice-champion d'Autriche. Et puis vous dire que Gignac est champion du Mexique. Il a marqué le but qui a permis au Tigres.
C'est clair que lui, là, c'est la vedette là-bas.
Léon. Léon où joue l'ancien joueur de Lorient, le costaricain, là. Comment il s'appelait celui-là? Campbell. Joel Campbell. Voilà.
Ancien d'Arsenal aussi, d'ailleurs.
Ancien d'Arsenal, exactement.
Oui, oui. Saul Campbell?
Joel Campbell. Oh, Joel Campbell. Là.
Aucun lien.
C'est comme René et Sergio, tu vois.
Incroyable. Demain, je rappelle par ailleurs que l'after sera là à 22h. Dossier spécial Nantes demain soir. On vous le promet depuis des jours. Il sera bel et bien là demain soir, ce dossier spécial Nantes, bien sûr. Mercredi, la finale de l'Europa League. Fredo, désolé, hein, c'est pas ta semaine. Hein, là, c'est la semaine de
Julien
Laurence.
Ouais,
bon, voilà, c'est comme ça.
Et jeudi,
mais tu peux écouter, Fredo. Hein, tu peux écouter.
Ouais.
Attendez. Oui, bien sûr, je vais regarder et vous écouter, bien entendu. Mais vendredi soir, vous me verrez sur MC Sport 1 pour un truc très spécial.
Ah bon?
En direct de... Ah oui.
Surprise, tu dis rien?
Ah bah, attendez, je sais pas si c'est annoncé, mais...
Vendredi soir.
Bon, mais dis rien, alors.
Vendredi soir, il y a un doc extraordinaire qui est projeté, et Et moi,
j'ai rencontré un monstre.
Coutissime. Ouais.
Ah, c'est extraordinaire, ça,
exact. Ouais.
Mais non, mais vraiment, jeudi, pour le match de barrage,
tu viens. Ah, bah, attends, mais jeudi, c'est ce genre de match, c'est le match le plus important de l'année. Lance Dijon, mais attendez, vous rendez pas compte, les mecs. Non, mais moi, je suis comme un fou, déjà, mais, je veux dire, j'en ai pleuré vendredi soir tellement j'étais heureux.
Ah, ouais, c'est vrai que c'est inattendu. Ouais. Bon.
Bah, c'est après tout ce qu'on a souffert.
Pierre Dupré pour l'entrée, il l'a dit, hein.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Il a dit ça hier, du coup, il y a tous les jours qu'il a appelé aujourd'hui.
Ouais, je me suis fait taper sur les doigts. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y en a beaucoup qui étaient derrière Lens, effectivement.
Ah bah, le foot français,
quoi. Bonne chance aux deux.
Quatrième meilleure influence de toute la France. Bah oui. Cette saison, en étant deuxième division,
bien sûr.
Je pense que c'est ça mérite d'être en première en Ligue 1.
Ouais, voilà, bah, il n'y a pas que ça sur le terrain. Tu peux mériter plus qu'on ait plus de supporters dans les tribunes.
Demain, on sera là à 22h, bien sûr. Bonne nuit à tous.
Ciao,
à
bientôt.
Bonne nuit.
RMC. L'After Foot.